58 421 touristes ont visité la Nouvelle-Calédonie en 2025, une baisse de 53% par rapport à 2023, année de référence. Dans la région, cet événement en Australie avec la visite, deux mois après l'attaque de Bondi Beach du président israélien. Face au ravage des feux sur le territoire, WWF incite les candidats aux municipales à intégrer le risque incendie dans leur programme. J-6 avant la rentrée scolaire, en province des îles, les effectifs sont relativement constants depuis plusieurs années. En 2026, l'accent est mis sur l'assiduité. Et puis on prendra la direction de la Nouvelle-Zélande, où 5 Calédoniens participent aux Océania de cyclisme sur piste. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans InfoSoir. À la une de l'actualité, ce nombre, 58 421, comme je le disais en titre, 58 421 touristes qui ont visité la Nouvelle-Calédonie l'année dernière. C'est 53% de moins qu'en 2023, année Lionel Sabot, qui reste l'année de référence.
Après les violences de mai 2024, la confiance peine à revenir. On notera que le mois de décembre a été plutôt bon en termes de fréquentation, avec 8601 visiteurs. Ce sont les métropolitains qui tirent l'activité avec 42% des arrivées. C'est 8 points de plus qu'en 2023. Les Australiens représentent le deuxième marché avec 20% des flux. L'année dernière, le tourisme affinitaire et de vacances représente le même volume de 38%. En 2023, les vraies vacances pesaient 46% dans les économie du tourisme. Le gouvernement, rappelons-le, a affiché l'ambition d'atteindre 250 000 touristes par an à l'horizon 2032. Pour cela, l'exécutif prévoit d'augmenter de manière importante le budget alloué à la promotion touristique.
Notez en bref cette information pratique. Air Calin reprogramme le vol SB501 qui n'a pas pu être opéré en raison d'une anomalie technique sur un élément du pare-brise du cockpit. L'appareil immobilisé pour procéder aux vérifications quittera finalement l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle demain matin pour nous à 5h45 après une escale à Bangkok. L'Airbus A330 d'Air Calin se posera à Tontouta jeudi à 6h30. Rappelons que les passagers ont été prise en charge et hébergée par la compagnie dans l'attente du départ. L'actualité dans la région avec la visite du président israélien en Australie, qui est donc évidemment un événement. Deux mois après la tuerie de Bondi Beach, Isaac Herzog en a profité pour critiquer les violentes manifestations pro-palestiniennes qui ont eu lieu, c'était hier soir à Sydney, la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le premier ministre australien, Anthony Albanese, s'est dit anéanti par ces manifestations qui se sont traduites par l'interpellation de 27 manifestants pro-palestiniens. Plus tôt dans la journée, le président Herzog s'était rendu à Bondi Beach où il a honoré la mémoire des 15 victimes de la tuerie du 14 décembre. Il a rencontré les familles des défunts de la tragédie et a apporté son soutien à celles et ceux qui y ont survécu. Il a également exprimé sa frustration à l'égard de l'Australie et de certains autres pays occidentaux qui, selon lui, n'ont pas tenu compte des avertissements d'Israël concernant la montée de l'antisémitisme après la tragédie du 7 octobre 2023. Il a enfin critiqué les rassemblements organisés à travers l'Australie par des groupes pro-palestiniens. Ces manifestations visent à délégitimer notre droit à l'existence, a-t-il déclaré. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Retour sur le territoire. À l'approche des élections municipales, le WWF incite les candidats à intégrer le risque incendie dans leur programme. L'organisation internationale rappelle que les incendies ont des conséquences destructrices sur l'environnement et que c'est aux maires de mettre en place dans leur commune des solutions. Le sujet des incendies en milieu naturel, un sujet qui doit s'inviter au débat des municipales selon Hubert Géraud, expert conservation et plaidoyer au WWF.
C'est un sujet crucial pour la gestion d'une municipalité, puisqu'un maire a la responsabilité de porter secours, donc de gérer son centre d'incendie et de secours, et donc de lutter contre les incendies sur sa commune. Et puis il a aussi la responsabilité de distribuer de l'eau potable à ses administrés. Or, la question de la gestion des incendies répond à ces deux sujets. puisque nos périmètres de protection de captage d'eau sur une commune sont de plus en plus menacés par les incendies et vont augmenter la facture d'eau pour les administrés. Donc pour un maire, c'est pas un sujet de second ordre, c'est quelque chose vraiment qui doit apparaître dans le programme de chaque élu en lice pour les municipales.
Des pistes de travail sont envisagées par le WWF. On retrouve Hubert Géraud.
Une meilleure coordination entre les collectivités, puisque le temps, la rapidité de mobilisation des moyens de manière intercommunale ou intercollectivité porte vraiment préjudice à l'efficacité de la lutte. Augmenter les moyens de lutte, alors c'est facile de le dire, mais c'est parfois pas forcément très onéreux. Créer des réserves communales de sécurité civile dans une commune, il n'y a que quelques communes en Calédonie qui l'ont fait. Pourquoi pas les autres ? Une cartographie des enjeux sur une commune, des périmètres de protection de captage d'eau, et donc d'anticiper une stratégie de prévention et de lutte contre les feux sur les captages d'eau qui apportent de l'eau aux administrés de sa commune. Et puis, travailler, responsabiliser toutes les composantes de la population de sa commune, puisqu'un maire, il est au carrefour, de tous ses administrés. C'est différentes pistes, et je pense que les élus en ont sans doute d'autres, mais on veut les voir apparaître dans le débat de ces municipales.
Oui, on notera que depuis le début de la saison sèche, en septembre dernier, environ 4000 hectares ont brûlé lors de la centaine de feux de végétation. Le WWF dénonce un manque de moyens pour les gérer efficacement et demande, vous l'avez compris une nouvelle fois, que le sujet soit intégré au programme des candidats aux municipales. En bref, attention aux arnaques et aux faux profils sur Messenger, puisque actuellement un profil usurpant l'identité du maire de Nouméa, Sonia Lagarde, propose de profiter du dispositif provincial Sud Retour. La ville rappelle que le dispositif ne dépend pas de la mairie, mais bien de la province, et que le maire ne propose pas d'aide financière via les réseaux sociaux ou par Messenger. Il s'agit de tentatives d'escroquerie dans le seul but de soutirer des coordonnées bancaires et des données personnelles. Il est 17h52, on marque une première pause avant d'ouvrir notre page spéciale rentrée scolaire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Info soir, Léo Fichou.
On ouvre tout de suite, je le disais, notre page spéciale rentrée scolaire.
Suivez les pages rentrées avec l'As de Trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de Trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sac et cartable, multimédia et livres, et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Rendez-vous à l'As de Trèfle Magenta, quartier latin Ecoumac ou sur asdetrèfle.nc. Ouais.
Et intéressons-nous ce soir à la rentrée dans les écoles primaires et maternelles de la province des Îles. Une rentrée qui se fera effective quasi constant, nous a dit Eddy Men, le responsable adjoint de la direction de l'enseignement de la province des Îles.
En termes d'effectifs prévisionnels, on attend à peu près 1730 élèves, hein, dont 869 sur l'IFOU, à peu près 705 sur Marais et 158 sur Ouvert. On a des effectifs assez qui restent stables par rapport à l'année 2025. Hein. On est toujours sur les mêmes effectifs, au fait. Hein. On est organisé en secteur scolaire. Hein. Donc on a 10 secteurs scolaires à l'intérieur desquels on trouve plusieurs écoles. Il y a des écoles, élémentaires et maternelles. 5 secteurs scolaires sur l'IFOU, 4 sur Marais et 1 sur Ouvert. On a un taux d'encadrement qui est de 17 élèves par enseignant, donc ça va, c'est correct. Bonne condition d'apprentissage.
Les enseignants qui sont déjà sur place depuis hier pour la rentrée administrative et qui feront, comme sur le reste du territoire, leur rentrée vendredi. Cette année, la province des Îles entend mettre l'accent sur l'assiduité pour les élèves et pour les enseignants, explique Eddy Men.
Il y a deux aspects. Il y a l'aspect élève. Donc, on demande aux équipes de renforcer le suivi de l'absentéisme des élèves dans chaque école. C'est important que les enfants soient présents pour recevoir les apprentissages. Mais c'est aussi le suivi de la présence aussi des enseignants, parce que c'est important que l'enseignant soit présent quotidiennement, régulièrement, pour assurer les apprentissages. Donc l'assiduité, c'est un axe prioritaire pour nous, la province des Îles, pour cette année 2026.
Voilà donc pour cette rentrée dans les écoles maternelles et primaires de la province des Îles. Ce matin, nous avons scruté la rentrée dans celle de la province sud. 91 écoles qui vont accueillir 16 665 élèves. Des effectifs en baisse puisqu'ils étaient 18 400 en 2024 et un peu plus de 20 000 il y a 5 ans. Hier, la province a réuni l'ensemble des directeurs d'école de la province sud. L'occasion de leur faire passer quelques messages a souligné Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud, en charge de l'enseignement. Il était notre invité ce matin à 7h30.
D'abord un message de remerciement de leur action, parce que c'est eux qui tiennent leurs écoles. Une année 2026 particulière, avec plusieurs échéances électorales, municipales, provinciales, l'accord de Bougival. Et c'est important de sanctuariser l'école. C'est-à-dire que je dis toujours...
Vous pensez que c'est possible ?
Ça a été le cas. Ça a été le cas pendant la crise Covid. Ça a été le cas pendant les insurrections, avec honnêtement des équipes pédagogiques, pas que les directeurs, mais l'ensemble des équipes pédagogiques, enseignants et le personnel autour, qui ont été hyper présents en 2024. Moi, je dis toujours que les enfants sont des éponges, ils absorbent ce qu'ils entendent chez eux, dans leur famille, et ils ont tendance à le rediffuser dans les écoles, et c'est important que, par leur action au quotidien, par l'écoute, par la présence des enseignants et de l'ensemble des équipes, de pouvoir sanctuariser cette école. Ça, c'est le premier message, et il est essentiel de pouvoir avoir un calme dans nos écoles.
Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud en charge de l'enseignement, qui était donc notre invité ce matin. Et demain, c'est la rentrée dans les écoles de Païta dont nous parlerons avec notre invité. Nous recevrons le maire de la commune, Marilyn D'Arcangelo. Effectifs, travaux, cantine, orientation, nous scruterons tous les aspects de cette rentrée à Païta dès 7h30. Ce midi, dans le magazine Citoyen, nous avons parlé de la rentrée scolaire, bien évidemment, avec des chefs d'établissement. Jean-François Baudin, vous receviez un directeur d'école, un directeur de collège et un directeur de lycée.
Quel que soit l'âge des élèves accueillis, ces chefs d'établissement partagent les mêmes préoccupations à quelques jours de la rentrée. Préparer leur établissement, vérifier l'état des classes et du matériel, affiner les emplois du temps, régler les derniers détails. Bref, une pré-rentrée pour être prêt le jour J, a expliqué Anne-Sophie Michalak, directrice de l'école Robert Burke à Nouméa.
Le travail de pré-rentrée, c'est celui d'organisation. Là, pour les enseignants, c'est d'anticiper les besoins des classes, de manière à pouvoir accueillir en toute sérénité les familles lundi matin. C'est aussi montrer beaucoup de soutien. Il faut que nos enseignants soient, on va dire, disponibles pour accueillir les élèves lundi matin. Donc c'est vrai que le rôle de directeur, c'est aussi de rassurer. Il n'y a pas que les enfants qui stressent, les enseignants aussi. C'est une nouvelle classe, c'est une nouvelle découverte. Et il faut que la mayonnaise prenne rapidement. Notre rôle, c'est surtout de les soutenir et puis de faire aussi le pare-feu dès lundi matin, justement, aux inquiétudes, aux appréhensions des familles qui peuvent avoir des questions qui peuvent mettre en difficulté les enseignants. Donc là, il est important, justement, le travail de pré-rentrée.
Préparer la rentrée et tout faire pour que tout se passe bien dès le retour des élèves en cours, mais les chefs d'établissement affinent aussi les axes de travail qu'ils vont déployer tout au long de l'année. Par exemple, la lutte contre l'absentéisme et le décrochage scolaire, a expliqué Thomas Long, il est directeur du Collège public de la Foix.
C'est l'un des sujets principaux qui emmène à l'échec scolaire, l'absentéisme. Donc oui, on travaille beaucoup dessus, on accueille beaucoup les familles par rapport à cette problématique, des élèves qui ne viennent pas dans l'établissement. Dès le niveau 5e, 4e, on voit de gros décrochages pour un certain nombre d'élèves. Donc on essaye d'accompagner, on essaye de trouver des formules un petit peu hybrides ou des solutions adaptées, loin du système classique scolaire, pour que on les emmène le plus loin possible, malgré cette envie d'ailleurs et de faire autre chose. Donc l'école sert à ça et on a vraiment cette problématique aussi en Beauce.
Et cet exemple du décrochage scolaire montre à quel point il est important aussi pour les chefs d'établissement et les équipes éducatives de travailler avec les familles. Même si ce n'est pas toujours simple, c'est essentiel, a souligné Michel Lehouillet, proviseur du lycée Jules Garnier.
Pour nous, il faut absolument que ce soit un partenaire. Il y a tout un système, un certain nombre de personnes qui sont autour de l'enfant, et les parents d'avoir une place privilégiée. Sur Garnier, la difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font par Internet, notamment par Pronote, et j'ai en gros 30% des parents qui sont connectés, donc 70% qui ne sont pas connectés. Ça complique déjà les choses. Et il y a le fait de la carte scolaire, avec un recrutement à quelques élèves sur Magenta, mais sinon c'est Porte de Fer, Rivière Salée, Caméré, et après c'est la brousse, avec Thio, Canala, Bouraille, La Foix, donc des gens qu'on ne voit pas forcément très facilement. Mais il faut essayer de, au moins de lier le contact et de faire en sorte que ce contact soit quasi permanent, au moins avec le prof principal et puis le CPE du niveau, de manière à pouvoir alerter et travailler ensemble en fait, dès qu'il y a un souci.
Voilà, trois chefs d'établissement invités du magazine Citoyen qui prévoient une rentrée apaisée dans leurs établissements.
Et un magazine Citoyen qui est disponible en intégralité sur notre site internet et notre page Facebook.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour est la suivante. À l'approche de la rentrée et près de 2 ans après les violences insurrectionnelles de mai 2024, avez-vous le sentiment que le climat s'est apaisé dans les établissements scolaires? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, à présent 73% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent craindre une dispersion des listes de candidats pour les élections municipales des 15 et 22 mars. Ils sont 27% à dire qu'ils ne partagent pas cette crainte. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. On continue notre page spéciale rentrée scolaire. Les transports en commun se préparent, eux aussi, pour la rentrée. Le SMTU et le Betticho s'adaptent pour répondre à la demande, Lionel Sabot.
Sur les routes d'abord, le réseau Taneo va connaître plusieurs évolutions, avec de nouvelles offres d'abonnement, mais aussi l'adaptation de certaines lignes et de certains horaires. Yannick Fèvre est le directeur du SMTU, le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa.
On a eu une aide de l'État, du coup on propose un produit qui s'appelle Abonnement de solidarité républicaine 2026, qui est une offre pour les jeunes de 7 à 26 ans, et qui offre un abonnement d'un mois pour 4000 francs et de 3 mois consécutifs pour 10000 francs. Le gouvernement nous a demandé de regarder pour proposer un nouveau service, la ligne N2, qui desservira de Dumbéa Centre jusqu'à Porte de Fer et qui permettra aux élèves de Rivière-Salée d'aller au collège de Porte de Fer. Sur le Mont-d'Or, on a prévu de prolonger du collège de Plume jusqu'à Béatitude. Alors ça, par contre, c'est ponctuel. Hein. Il y a un service le matin, un service le soir. On est toujours dans cette phase de consolidation, de reconstruction. C'est-à-dire qu'on est parti, on offrait un service minimum pour pouvoir aller au travail. On a étoffé pour avoir un service continu en octobre. Et on continue voilà, d'étoffer la proposition et de répondre aux attentes. Alors c'est sûr qu'on n'arrivera pas à revenir à ce qu'il y avait avant. Mais voilà, on essaie d'être au plus près du besoin dans la capacité financière qui est la nôtre.
Des nouveautés qui entreront en vigueur à partir de lundi, le jour de la rentrée des classes. Et puis en mer, en raison d'une forte demande, le Betticho assure des rotations spéciales rentrée. Demain, rotation pour OVA. Vendredi, la rotation du bateau concernera l'IFU. Une rotation spéciale pour l'île des Pins aura lieu samedi. Enfin, le mardi 17 février, c'est un aller-retour pour Marais qui sera organisé. Les départs se font à 7h de Nouméa pour un retour aux alentours de 19h30-19h45. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du Betticho.
Et après les transports en commun, place aux cantines. C'est à la cuisine centrale du 4e kilomètre que les menus sont pensés, que les commandes sont passées et que les repas sont préparés. New Rest produira cette année 9500 repas par jour contre 12000 avant les émeutes de 2024. 9500 repas qui seront distribués dans près de 70 écoles à Nouméa, Dumbéa et Païta. Comme l'explique Antoine Brouillet, directeur général de New Rest en Nouvelle-Calédonie, la rentrée se prépare depuis plusieurs mois déjà.
Il faut beaucoup d'anticipation parce que ça nous permet d'avoir un processus qui est extrêmement maîtrisé. On la prépare en effet depuis novembre. On a commencé à travailler sur les planches de menu, qu'est-ce qu'on allait servir aux enfants. Ensuite, on a fait valider ces planches de menu par une diététicienne externe. On a fait ensuite valider nos menus avec nos clients, qui sont les caisses d'école des communes. Et une fois qu'on a eu toutes ces validations, on a pu lancer les commandes auprès de nos fournisseurs, parce que un des sujets importants, c'est d'avoir les produits en bonne quantité à 3 jours de la rentrée scolaire.
Sécurité alimentaire, qualité des produits, équilibre nutritionnel, autant de contraintes qui structurent le travail des équipes. Et en restauration scolaire, la manière de produire les repas est elle aussi très encadrée.
Pour les écoles, on est sur un processus qui s'appelle de la liaison froide, donc c'est-à-dire qu'on cuisine, ensuite on fait refroidir nos repas, et ils sont livrés froids dans les écoles, où là, les personnels des communes et des mairies prennent le relais, réchauffent ces repas et font le service auprès des enfants.
Mais avant de penser à la cuisson et à la livraison de ces milliers de repas, la cuisine centrale doit d'abord être remise entièrement à blanc, un passage obligé avant chaque rentrée scolaire, rappelle Coralie Dibon, responsable de production.
Nous, dans la cuisine, on a tout un protocole avant de commencer la rentrée. Donc on est en période de ce qu'on appelle de mise à blanc des 1800 m² de la cuisine. Donc, c'est-à-dire qu'on va nettoyer et désinfecter en profondeur tous les locaux, les ustensiles et les équipements pour pouvoir commencer à cuisiner correctement.
Et quand on dit cuisiner correctement, pour que les enfants soient contents quand ils vont à la cantine à la mi-journée, comment ça se passe en production ?
Nous, les choses sérieuses avons commencé le vendredi 13. Donc là, on va commencer la production des 9500 repas. Donc on commence déjà à réceptionner toutes les marchandises nécessaires. Et après, on va avoir tout notre processus en place. Donc on va avoir toute la désinfection des matières premières, la cuisson, le refroidissement, la mise en barquette pour ensuite l'envoi dans les écoles lundi.
Une organisation millimétrée qui s'accompagne aussi d'un changement progressif dans le contenu des assiettes. Depuis plusieurs années, les collectivités, mais aussi les familles, attendent davantage de produits locaux.
Oui, exactement. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre dans les menus, d'augmenter la part des produits locaux. Donc en 2 ans, on est passé de 43 à 54% de produits locaux dans les assiettes. Et cette année, on a réussi à établir des partenariats avec des producteurs locaux pour garantir de notre côté les quantités nécessaires pour produire et pour garantir sur nos menus aussi la présence de produits locaux.
Mais alors, à quoi va ressembler le tout premier repas de l'année ? Un menu équilibré et gourmand ? Ce sont les mots d'Antoine Brouillet, le directeur général de New Rest.
On commence par une petite entrée haricots verts maïs avec sa vinaigrette maison. Ensuite, pour le plat, on est sur un chili con carne avec de la viande locale et du riz. Et en dessert, on est sur un flan à la vanille également local. Concrètement, pour mettre en œuvre cette première journée de rentrée, on parle de 900 kg d'haricots verts à cuisiner, 900 kg de viande hachée, 750 kg de riz et 9500 flans à la vanille.
Et derrière ces chiffres, derrière ces menus, ce sont surtout des femmes et des hommes, plusieurs dizaines pour le coup, qui œuvrent chaque jour en cuisine avec une exigence constante. C'est le cas de Jean-Philippe Houcane.
Je suis le responsable atelier prépare chaude. Je travaille avec 4 personnes. Nous produisons chaque jour 9500 repas avec hygiène très stricte. Et cela nous permet de donner notre cœur et de notre savoir-faire dans ce repas afin qu'ils soient sains et qu'ils aient un bon goût pour faire plaisir aux enfants.
C'est ça le plus important, c'est pour les enfants?
Oui, voilà.
Et derrière chaque plateau repas, des semaines de préparation, vous l'avez compris, des dizaines de salariés mobilisés. Lundi prochain, pour des milliers d'élèves, la rentrée passera aussi par la cantine.
C'était les pages rentrées avec l'As de Trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de Trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sacs et cartables, multimédia et livres. Et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Rendez-vous à l'As de Trèfle Magenta, quartier latin Ecoumac ou sur asdetrèfle.nc. Ouais.
Il est 18h08. On marque une seconde pause et on parlera notamment sport juste après.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Jusqu'au 14 mars, à suivez et vivez le tournoi Destination 2026 sur Radio Rythme Bleu avec Elia by OPT. Rendez-vous sur notre site elia.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. Elia, au cœur de toutes les collections.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Léo Fichou.
Le centre de don du sang lance un appel à la mobilisation en cette période de vacances scolaires et à l'approche de la rentrée. Les réserves sont basses. Plusieurs collectes sont donc organisées dans les communes du Grand Nouméa. Aujourd'hui, c'était à la mairie de Dimbéac, agents municipaux et administrés pouvaient se rendre pour la bonne cause.
Je donne régulièrement mon sang parce que je pense que c'est quelque chose de nécessaire sur le territoire et parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui donnent.
C'est un mouvement de solidarité. On a beaucoup de membres de nos familles ou certaines connaissances qui peuvent en bénéficier. On en connaît tous qui peut-être ont perdu la vie parce qu'ils n'ont pas justement pu en bénéficier. Qui sait, un jour ça arrivera à nos proches ou ça nous arrivera à nous. Donc ça serait un cycle vertueux de le faire. Et plus tard, ça sera peut-être d'autres jeunes qui le feront pour nous.
Le groupe donneur universel, c'est d'autant plus important de donner aujourd'hui.
Tous les groupes, je pense, c'est important de donner parce qu'on a besoin de tous les types de groupes. Mais oui, je sais que je reçois régulièrement des messages pour dire « on a besoin d'eux au plus », etc. Donc, d'où ma présence aujourd'hui.
Des propos recueillis par Léana Colombo. Et notez que la prochaine collecte aura lieu au Mont d'Or le 24 février. Le lundi 2 mars, le centre de dons situé à côté de l'ancien CHT sera ouvert en continu de 7h15 à 18h. On passe au sport avec du cyclisme sur piste dans la région. 5 Calédoniens sont en Nouvelle-Zélande. Ils participent aux Oceania. La sélection calédonienne est composée de 4 jeunes. D'un côté, Chad Charret, Enzo Martoreggio, Kyrian Moutry et Hervé Salin. Un cinquième représentant du territoire, Kéril Moutry, est lui engagé sous les couleurs de son club dans la catégorie élite. Ils sont entraînés par le champion olympique Laurent Ganet et accompagnés par Gérard Salin. Écoutez.
C'est un milieu très relevé avec les Australiens et les Néo-Zélandais. Et donc, ça leur fait du bien parce que nos coureurs n'ont pas l'occasion de se confronter à un tel niveau. Quoi. On a demandé à l'entraîneur de venir nous accompagner. Et donc, ça leur fait du bien parce qu'il y a Laurent qui a été très sérieux durant sa carrière. Et donc, il leur apporte beaucoup les conseils, se coucher avec la nourriture, la nutrition, tout un tas de choses. Et puis, Laurent est très strict, ça leur apporte beaucoup.
Quel est l'objectif pour eux? C'est d'apprendre, d'essayer de faire des perfs, de monter sur le podium peut-être, même si
ouais, c'est compliqué. L'objectif premier, c'est d'apprendre, se confronter au niveau, ça paraît faire une belle préparation pour les championnats de France.
Et notez d'ores et déjà les premiers résultats du jour. Enzo Martoreggio et Chad Charret ont été éliminés en quart de finale de la vitesse. En poursuite, Kyrian Moutry n'a pas passé les qualifications. Et puis un mot de football pour terminer. Football au féminin, puisqu'on connaît le groupe qui va participer dès la fin du mois aux qualifications océaniennes à la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui aura lieu au Brésil pour affronter les Fidji, le Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La nouvelle sélectionneuse, Christelle Wanawe, a fait appel à 23 joueurs. 6 qui évoluent en métropole, dont Laure Palen qui porte les couleurs du Mans en D2, deuxième division, et 17 joueuses du territoire, des filles de la SOH, du DAC, du SC Negeu, du Paita FC, mais aussi de l'ASAF. Il est 18h13 après le sport, place à la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soitil, Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit sur la façade est et le relief, des averses persisteront en début de soirée avant une amélioration progressive avec un ciel qui se dégagera. Sur l'extrême nord, la nuit s'annonce bien étoilée. Ailleurs, sur la côte ouest ainsi que des îles Loyauté à l'île des Pins et jusqu'à la pointe sud, nuages et éclaircies alterneront avec une ondée isolée possible par endroit. Le vent de nord-ouest se maintiendra autour de 10 nœuds sur le sud-ouest et entre 5 à 10 nœuds sur l'île des Pins et les Loyauté. Plus au nord, il soufflera au secteur sud-ouest entre 5 et 10 nœuds, tandis que la côte est restera globalement déventée. Les températures nocturnes, quant à elles, évolueront peu, comprises entre 23 et 25 degrés et jusqu'à 26 degrés sur le littoral. Demain matin, au lever du jour, averses et éclaircies se partageront le ciel sur l'ouest, marais et l'île des Pins. Sur les autres régions, le soleil dominera plus largement. De faibles brises, entre 5 et 10 nœuds, s'établiront progressivement sur l'ensemble du territoire. Côté marais, la marée sera haute ce soir aux alentours de 20h et remontera dans la nuit vers 3h12 avant de redescendre demain matin autour de 8h39 avec des coefficients qui évoluent entre 62 cm et 1m20. Et côté ciel, la lune sera descendante avec un clair de lune d'environ 45%, apportant une belle luminosité nocturne.
Merci beaucoup Pierre, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.